Radio Capi.
Le journal qui vous sera présenté par Pascal Masserica.
À la une ce soir, interdiction aux compagnies aériennes internationales de ne pas embarquer les passagers venant de l'Inde ou du Brésil. Cette décision de la DGM est motivée par l'apparition des nouvelles variantes de la pandémie du coronavirus dans ces deux pays. Poursuite de l'offensive des FARDC contre les positions de la CODECO en territoire de Djougou en Ituri. Du coup, 15 villages qui étaient occupés par ces miliciens sont sous contrôle des FARDC. Notre invité, c'est Bernard Okanda de la section protection de l'enfant à la MONUSCO Béni. Il parle des FARDC appuyés par les casques bleus contre les recrutements des enfants par des groupes armés à Béni, à Boutembo et à Lubero. Madame, Messieurs, bonsoir. La Direction générale de migration DGM demande aux compagnies aériennes internationales de ne pas embarquer tout passager venant de l'Inde ou du Brésil ou ayant transité, sauf dérogation expresse de sa part. C'est à cause de la persistance du coronavirus et l'apparition des nouvelles variantes de cette pandémie dans ces deux pays. Ces décisions du chef de la DGM, Roland Kachouantale, est contenue dans une correspondance du 8 mai adressé à ses compagnies aériennes internationales. Au Kasaï oriental, une panique a été observée la nuit dernière à l'hôpital général de référence de Bonzola suite au décès des malades soupçonnés d'être atteints du coronavirus. Du coup, les malades ont été tous évacués vers d'autres salles. D'autres ont carrément quitté l'hôpital. Mbujimaï, le récit d'Esther Ndalafina.
Ce décès plonge plusieurs malades ainsi que le personnel soignant dans la panique totale et surtout que la dépouille mortelle de la défunte a traîné pendant plusieurs heures au lit dans les soins intensifs où elle a été admise dès son arrivée dans ce centre hospitalier. Les sources sur place affirment que certains malades qui étaient admis aux soins intensifs ont été évacués la nuit dernière vers d'autres salles. D'autres malades, par contre, ont préféré vider les lieux et rentrer chez eux à cause de la peur. Contactée, la division provinciale de la santé affirme que selon les informations lui transmises, la défunte présentait quelques symptômes de la COVID-19, raison pour laquelle ces échantillons ont été prélevés ce lundi et diagnostiqués au laboratoire implanté récemment en Mbujimaï. Selon Dr Bonheur Tchetekou, les résultats ont été déclarés positifs. Les dispositifs sont en cours pour l'inhumation du corps, affirment les sources médicales, signalant que le Kasaï oriental compte actuellement 9 cas de COVID-19, dont 3 décès. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Kapi.
Et puis, il y a pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi, dans le Congo central, depuis le mois de novembre dernier. Conséquence, beaucoup d'habitants dépensent de l'argent pour le transport et l'achat de l'eau dans cette ville où le projet d'amélioration de la desserte en eau potable prenne. La Régie des eaux promet de trouver une solution à ce problème, n'est-ce pas, Nana Plurichmambou?
À Matadi, on observe ces derniers jours les habitants transportant des récipients d'eau sur la tête, voire au dos sur toutes les artères. À Kinkanda, un quartier nanti, dans certains coins, notamment Petit Marché et SMDC, l'eau ne coule plus des robinets depuis le mois de novembre dernier. Cet habitant s'est dit révolté.
Je vous parle en colère contre la Régie des eaux. Parce que chez moi, à la maison, l'eau a coulé il y a de cela plus de 5 mois. Donc à chaque fois, je dois débourser de l'argent pour aller chercher de l'eau vers Mvomvo là-bas. Je me pose ici, monsieur le directeur de la Régie des eaux est à la hauteur de ce qu'il doit faire comme directeur provincial.
Pour les habitants des quartiers populaires de la ville de Matadi, la situation est encore plus préoccupante. Pour s'approvisionner en cette denrée vitale, ils vont jusqu'au fleuve avec tous les risques que cela implique. Contacté, Julien Massé, Sirika, directeur provincial de la régie de distribution d'eau, attribue ses manques d'eau aux travaux de nettoyage des ouvrages qui s'effectuent à l'usine de traitement d'eau située en Pozo et vers les débarcadères. Ces travaux devraient déjà toucher à leur fin, mais ce sont les coupures intempestives d'électricité et les pluies qui les retardent. Julien Massirika appelle la population à la patience. Il affirme être conscient des difficultés auxquelles elle fait face. Il estime qu'à la fin de ces travaux, la régie des eaux offrira une eau de bonne qualité et en quantité suffisante à ses abonnés. Matadi, Nana Plurichmambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, le FRDC poursuit l'offensive contre les positions de la Codeco en territoire des Djougou en Ituri. Plus de 15 villages qui étaient occupés par ces miliciens sont sous contrôle des FRDC. Conséquence, le trafic est suspendu sur la route nationale numéro 27 pour éviter des effets collatéraux de la guerre. Le point de la situation avec vous, Isaac Remoyopé.
C'est depuis environ une semaine que des combats sont signalés entre les unités commando déployées récemment à Ituri et les miliciens de la Codeco qui étaient regroupés dans plusieurs villages en territoire des Djougou. Selon des témoins, plusieurs villages sont déjà récupérés par les FARDC qui ont mis en déroute ces hommes armés. Ils citent notamment Aïda, Londoni, Bali, Ponizi, Di et Dera, Libi et Djoukpa. Ces assaillants tentent de regagner leurs anciens maquis Ndalo, Lodjo, Linga, Mbaou et Ngakba. Jusqu'à ce mardi, l'armée continue à attaquer ces miliciens. Selon des sources de sécurité, l'armée a résolu de suspendre les trafics sur les tronçons Lopa-Fataki pendant le déroulement des opérations militaires. Cela pour éviter que les miliciens qui sont en fuite ne s'attaquent aux véhicules qui fréquentent cette route. Pour l'instant, de nombreux véhicules sont stationnés à Fataki et Igabarrière, affirment des sources locales. La population salue la détermination des FARDC pour en finir avec ces groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle en plus bref, le secrétaire général des Nations Unies condamne fermement l'attaque perpétrée hier lundi contre une position temporaire de la MONUSCO dans les territoires de Beni au Nord Kivu par des présumés rebelles ougandais de l'ADF. Une attaque qui a coûté la vie à une casque bleue malawite. Le secrétaire général des Nations Unies rappelle que les attaques contre le casque bleu peuvent constituer un crime de guerre. Il appelle les autorités congolaises à enquêter sur cet incident et à traduire les responsables en justice selon Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, dans un communiqué publié ce mardi à New York. Antonio Guterres réaffirme que les Nations Unies, par le biais de sa représentante spéciale en RDC, continueront à accompagner le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays. Le secrétaire général des Nations Unies exprime ses condoléances à la famille de la casque bleue malawite décédé, au gouvernement, au peuple malawite et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Sensibiliser la population à collaborer étroitement avec les FARDC en état de siège, c'est l'un des objectifs de la dynamique des femmes du Nord Kivu pour la bonne gouvernance. Ces dames séjournent ici à Kinshasa depuis le mois d'avril pour un plaidoyer en vue du rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Des précisions avec la coordonnatrice de cette dynamique, Rose Kahan Mbou Touombeane est au micro de Célestine Massoudi.
Nous allons d'abord, comme tout citoyen, nous lancer dans ce que nous appelons la dénonciation. Parce que si les massacres continuent, s'il y a persistance, c'est parce qu'il y a des histoires qui se passent, que nous appelons des causes. Et c'est parce que peut-être il y a des gens qui soutiennent et nous avons le rôle de dénoncer. Et nous n'allons pas dénoncer sans preuve. C'est pourquoi notre travail s'est renforcé et continuer les investigations chaque jour. Nous allons appeler ça monitoring pour comprendre qui peut être à la base et où, devant qui nous pouvons dénoncer. La deuxième chose, nous allons renforcer alors la mobilisation nationale. Les militaires qui sont sur la ligne de front méritent notre soutien. Nous profitons du micro de la radio Capi à demander aux artistes de se réunir, encore une fois comme il avait fait à période du M23 lorsque nous avons soutenu le colonel de Rez-Mémoire Mamadou. À Beni, il y en a d'autres Mamadou qui demandent qu'ils soient soutenus. Nous allons donc appuyer cet état d'urgence à notre niveau et nous allons continuer à dénoncer.
Et puis, 330 jeunes délinquants communément appelés Kuluna ont été évacués ce mardi de Kinshasa vers le centre pilote de Kanyamakassese dans la province du Olomami. La nouvelle est annoncée à Radio Okapi par le commandant du service national. Le général de brigade Jean-Pierre Kasongo Kabouik parle de la cinquième vague de cette opération avec la collaboration de la police nationale jusqu'à l'éradication du banditisme urbain ici à Kinshasa. Sur place, à Kanyamakassese, ils seront formés pour faciliter leur réinsertion sociale dans la communauté. Il a été joint par Alain Rungmouchige.
L'objectif qu'on s'est fixé conformément aux instructions du commandant suprême des forces armées, le président de la République, c'est à moyen terme arriver à débarrasser la ville de Kinshasa de 2500 Kuluna. Et dans le long terme, c'est arriver à éradiquer totalement ces phénomènes de la ville de Kinshasa. Les jeunes qui vont à Kanyamaka CC vont pour un encadrement paramilitaire d'une professionnalisation. Arrivés à Kanyamaka CC, ils vont subir la formation relative à l'encadrement civique et patriotique de bons citoyens. Et après cela, ils vont être orientés dans plusieurs filières. Il y en a qui vont être orientés à la menuiserie, d'autres à la maçonnerie. Nous aurons parmi eux des ouvriers agricoles, des moniteurs agricoles. Donc il y a plusieurs filières qui seront organisées pour permettre la réinsertion sociale de ces jeunes dans la communauté. Voilà l'objectif qui est poursuivi. Donc c'est pour leur bien, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien de l'État et c'est pour le bien de tout le monde.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi, sachez que des jeunes venus des territoires de Tchikapa, Mueka et Dekese dans la province du Kasaï et étudiants à l'université de Lubumbashi s'indignent de leurs conditions de vie. Leur président affirme que leurs parents, qui sont pour la plupart des enseignants, sont impayés depuis plusieurs mois. Conséquence, ils ne reçoivent plus rien de leurs familles respectives pour subvenir à leurs besoins académiques. Guy André Majumba s'est confié à Jean Gandou.
Nous sommes les étudiants dont les parents sont enseignants dans la province du Kasaï, chef-lieu Tchikapa. Nous venons pour exprimer notre indignation et refuser avec la dernière énergie l'injustice que subissent nos parents qui sont enseignants dans les territoires du Lebo, les territoires de Mueka, voire celui de Dekese, qui demeurent toujours dans l'impayement il y a cela 3 mois passés. Nous, étudiants, évoluons dans les différentes universités. C'est-à-dire 90%, nous risquerons de rater les examens de cette année, voire même notre alimentation par jour, qui est devenue un problème précaire par manque de moyens financiers de nos titulaires qui sont enseignants, qui jusqu'à présent demeurent dans le paiement. C'est ainsi, nous demandons à nos autorités et élus de nous trouver une solution dans un bref délai pour soulager notre mal.
Économie à présent. La RDC et la Zambie envisagent de jeter un pont sur la rivière Luapula. Le coup d'envoi des travaux sera donné très prochainement par les chefs d'État des deux pays. Cette rivière sépare le territoire de Kasenga dans la province du Haut-Katanga à la province zambienne de Luapula. Une fois finalisée, quelle pourrait donc être l'importance de ce pont pour la RDC? Tentative de réponse avec vous, Jean Gandou.
C'est au village Tchaloué, situé à une trentaine de kilomètres du chef-lieu du territoire de Kasenga, que sera jeté ce pont sur la rivière Luapula. Long d'environ 350 mètres, ce pont va relier les territoires de Kasenga à Luapula province, une entité administrative zambienne. Cet ouvrage sera d'une grande importance, car il permettra l'évacuation des produits, dont les minerais de la RDC, qui devraient transiter par les ports de Dar es Salaam en Tanzanie. La RDC utilise les ports de Dar es Salaam et celui de Durban en Afrique du Sud. Mais le gros de ces marchandises passe par Dar es Salaam. De Lubumbashi à Dar es Salaam, passant par la frontière de Kasumbalesa, c'est plus de 2037 km. Et de Lubumbashi à Durban, passant par la même frontière, c'est 2707 km. Par contre, si le pont est jeté sur la Luapula, de Lubumbashi à Dar es Salaam, c'est 1760 km à parcourir. En aller et retour, ce sont plus de 500 km qui seront gagnés par les importateurs dans les deux sens. Et la frontière de Kasumbalesa sera désengorgée. Pour l'administrateur du territoire de Kasenga, l'érection de ce pont va aussi booster les échanges commerciaux transfrontaliers entre son entité et la province de Luapula. Notons que ce projet est un partenariat public-privé dont le coût total est estimé à 473 millions de dollars américains et les travaux dureront 26 mois. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après des semaines de tensions et de heurts entre la police israélienne et palestinienne à Jérusalem, un début de conflit se profile à l'horizon. Des roquettes ont été tirées ce matin depuis la bande de Gaza sur le territoire israélien. L'État hébreu a immédiatement riposté en bombardant l'enclave palestinienne. Le bilan fait état d'au moins 20 personnes, dont 9 enfants tués. Les violences prennent une tournure dramatique dans cette partie de la planète. De plus en plus de retraités par rapport aux actifs, la population de la Chine a connu ces 10 dernières années sa plus faible croissance depuis des décennies, au point de se faire rattraper prochainement par le voisin indien. Aujourd'hui, près de 18% de la population chinoise a plus de 65 ans, ce qui pose des sérieux problèmes.
L'invité.
Notre invité, c'est Bernard Okanda de la section protection de l'enfant de la MONUSCO Béni. Il parle des enfants associés aux groupes armés à Béni, Boutembo et Lubero et du rôle des FARDC et des casques bleus dans la lutte contre le recrutement des enfants par les forces et groupes armés. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Bernard Okanda, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Aujourd'hui, quelle est la situation des enfants associés aux groupes armés dans la région de Béni, Boutembo et Lubero?
La situation des enfants associés aux forces aux groupes armés dans la région de Béni, Boutembo, Lubero demeure encore préoccupante, et d'autant plus que jour après jour, nous ne cessons de recevoir des alertes sur de nouveaux recrutements des enfants dans ces zones-là.
Quels sont actuellement les groupes qui sont beaucoup plus cités ou bien identifiés comme ceux qui recrutent les enfants?
Il y en a beaucoup. Il y a même ceux que nous avons approchés par l'engagement du dialogue que nous avions amorcé au niveau de la MONUSCO section protection de l'enfant. Et certains d'entre eux ont manifesté leur bonne foi de nous donner des enfants, mais nous avons vu que ce n'était pas la totalité. Nous pouvons citer par exemple UPDI qui s'est effondré, NDC rénové, UPLC, il y en a à Pasico, il y a certains parmi eux qui continuent à recruter les enfants parce que les enfants que nous recevons, la plupart viennent de ces groupes-là.
Plusieurs informations disent que certains enfants séparés des groupes armés par la MONUSCO et réunifiés avec leurs familles sont de nouveau recrutés. Confirmez-vous ces informations?
Oui, nous avons quand même quelques enfants actuellement. Nous sommes en train de les recevoir qui sont sortis lors de nos sensibilisations ou lors des sensibilisations des FARDC qui sont réunifiés à leur famille, mais on les retrouve encore recrutés et on les reçoit à nouveau. Bon, c'est presque un cycle qu'on peut qualifier d'infernal et que nous sommes en train de gérer.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une situation inquiétante?
Oui, c'est inquiétant quand même parce que ces enfants n'ont pas leur place dans les groupes armés. Ils ont leur place à la maison auprès de leurs parents. Mais quand on doit encore les récupérer après avoir abattu un grand travail de sensibilisation, de réunification familiale, qu'on les récupère encore, c'est un peu inquiétant pour nous.
Est-ce qu'on peut dire que par rapport à ça, il doit y avoir un réseau mis en place par les groupes armés parce qu'il n'est pas facile de libérer des enfants et encore les recruter de nouveau?
Apparemment, au sein de ces groupes armés-là, il y a des dissidents qui sortent jour après jour. Alors, lorsqu'ils font leur dissidence, ils recourent souvent à ces enfants-là qui ont été déjà utilisés parce qu'ils se disent qu'au moins ceux-là, ils n'ont plus à perdre beaucoup de temps pour les former et qu'on sort. Ils sont déjà un peu aguerris, entre guillemets. C'est dangereux pour les enfants et c'est là que nous en appelons à la responsabilité aussi de la communauté qui doit s'impliquer dans ce combat de lutte contre le recrutement des enfants. Ce n'est pas seulement une affaire de la MONUSCO ou du gouvernement, mais c'est une affaire aussi de toute la communauté qui doit s'impliquer, qui doit comprendre que c'est un fléau qui ravage notre jeunesse.
Vous en appelez à la responsabilité de la communauté, mais à quel niveau la MONUSCO et les FARDC collaborent ensemble pour lutter contre l'enrôlement des enfants au sein des groupes armés dans la région de Béni, Boutembo et Lubero?
FARDC et la MONUSCO, nous avons des actions qui sont conjointes, qui sont encadrées par ce que nous appelons le plan d'action qui a été signé par d'un côté le gouvernement congolais et de l'autre côté les Nations Unies. Et c'est par rapport à ce plan d'action qu'à chaque fois que les FARDC même lancent les opérations, ils prennent soin de sensibiliser d'abord les groupes armés avant de les attaquer. Et dans cette sensibilisation là, il y a souvent des sorties des enfants. Et c'est la même chose aussi que la MONUSCO fait, envoyer des messages aux groupes armés pour qu'ils cessent d'utiliser les enfants au sein de leur groupe. Il faut dire qu'au niveau des FARDC, presque au niveau de chaque unité, en commençant par les quartiers généraux, nous avons ce que nous appelons des points focaux de protection de l'enfant. Et lorsque les enfants sont capturés au front, ils sont acheminés au niveau du TD, bureau FARDC de renseignement. cinéma. C'est à ce niveau-là que nous allons récupérer ces enfants-là.
Et s'il vous est demandé de vous adresser aux responsables des différents groupes armés actifs dans la région de Beni, Boutembo et Lubero, quel sera votre message?
Nous ne cessons de le répéter auprès des responsables des groupes armés que le recrutement des enfants est un crime. Donc, ça fait partie des infractions qui sont imprescriptibles par la loi. Vous pouvez avoir recruté aujourd'hui, cela vous sera imputé, même après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, ça va toujours vous poursuivre. En recrutant les enfants, sachez que vous êtes en train de vous mettre en marge de la loi et vous payerez tôt ou tard.
Bernard Okanda, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, Bernard Okanda, de la section protection de l'enfant de la MONUSCO Beni, interrogé par Marc Martial Papi Mokeba. Il est 18h20 à Kinshasa, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Noël Luzitu Kabambi, qui est la coordonnée sous la supervision éditoriale de Pelekipe Lamondo. Retrouvez ces nouvelles sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi. Nicole Koudiangela reprend l'antenne.